Des voix, des histoires, c'est la base. La base, Bruxelles nous appartient.
Chers auditeurs, bienvenue à la grotte Notre-Dame de Lourdes à Jette. Cet endroit est un exemple intéressant du patrimoine bruxellois, car bien qu'hérité de la tradition religieuse, il a pu conserver une dimension très contemporaine. Ce lieu a pu être conservé et est encore aujourd'hui entretenu grâce à l'aide et au soutien de nombreux bénévoles. Vous marcherez le long de 13 stations où les bénévoles, les visiteurs et les habitués de la grotte partageront avec vous une de leurs histoires. Ces récits vous parleront de ce que vous pourrez voir et parfois toucher, mais également de leurs expériences, leur engagement ou les idées qu'ils ont pour la grotte. Il s'agit bien souvent de témoignages personnels de ces personnes qui ont tous une passion pour la grotte. Ce qui les unit, c'est cet endroit unique. Numéro 2, les vitraux de la chapelle.
Je m'appelle Jean-Marc Galevitch, je suis conservateur restaurateur d'œuvres d'art spécialisé en vitrail, spécialisé particulièrement dans les vitraux Art Nouveau et Art Déco. Un vitrail, c'est un assemblage de verres colorés ou non colorés à l'aide de plomb. Ça, c'est la conception actuelle du vitrail. Le vitrail, à l'origine, c'était une façon d'obstruer une baie. Plutôt que d'employer des parchemins, on employait des verres. Mais comme on ne savait pas souffler des verres de grande dimension, on soufflait les verres les plus grands possibles et on les assemblait avec du plomb. Ben, je suis intervenu sur ces vitraux il y a une trentaine d'années. Et à l'époque, il y avait pas mal de vandalisme. Et puis, ces vitraux avaient une pathologie un peu particulière, dans le sens que ce sont des vitraux de très grande dimension. Ce sont des vitraux en une pièce. Je pense que c'était un choix architectural. C'était aussi une méconnaissance de la plupart des architectes de l'époque. Avec l'arrivée de l'art nouveau et de l'art déco, on a revu beaucoup de critères architecturaux, y compris dans le domaine du vitrail. Le vitrail, antérieurement, était structuré avec des lignes de force et était renforcé avec ce qu'on appelle des barlotières. Des barlotières, ce sont... Quand on regarde une verrière d'église, on voit qu'on a une structure métallique dans laquelle il y a tout un tas de petits vitraux. Ça permet d'avoir une bonne résistance mécanique aux poussées, au vent, aux intempéries. Ici, pour, je pense, un motif esthétique, l'architecte n'a pas prévu de barlotière. Donc on a des grandes baies vitrées sans aucun châssis. Le vitrail est directement resserré dans la maçonnerie. C'est un défaut de conception qui peut s'expliquer par une volonté de graphisme, une volonté d'esthétique et une méconnaissance du matériau. Voilà, mais ça se faisait couramment, enfin pas couramment, mais ça se faisait régulièrement à l'époque. On a fait des vitraux de trop grande dimension. C'est pas un cas unique et c'est pas propre à l'atelier Crix, parce que je ne pense pas que l'atelier Crix ait eu son mot à dire dans ce genre de... On leur a commandé des vitraux d'une dimension X et ils n'ont pas pu intervenir sur... Pour renforcer les vitraux de cette dimension-là, ils ont employé une technique qui est un peu une technique particulière. Dans la plupart des églises, sur les vitraux, on a ce qu'on appelle des vergettes, donc des raidisseurs, des petites barres en métal que l'on fixe sur les verres qui sont attachés avec des bandes en plomb. Et ici, on a la même chose, mais on a un croisement de vergettes. On a un jeu de vergettes, donc de barres métalliques qui sont fixées au vitrail, qui est très important et qui était censé rigidifier le vitrail. Mais vu sa dimension, ces vergettes sont insuffisantes. Donc même avec la restauration que nous avons effectuée il y a une trentaine d'années, ces vitraux ne vont pas perdurer d'ici une vingtaine d'années, une trentaine d'années, tout au plus, il faudra réenvisager un traitement. Ou alors il faut prévoir une protection extérieure qui les isole de la poussée du vent, parce que sinon ils vont de nouveau s'altérer très très rapidement. Il a écrit que c'était un des trois ou quatre plus gros ateliers de Bruxelles à l'époque. C'était pas le meilleur atelier qu'on ait jamais eu en Belgique, mais c'était un bon atelier. On savait qu'il avait une réputation de sérieux et qui était tout à fait justifiée. Ils ont travaillé un peu partout. Ils ont travaillé à la basilique de Kuckelberg, entre autres, qui était une de leurs grosses références. Mais sinon, ils ont travaillé dans énormément d'églises bruxelloises et dans toute la Belgique. C'est un atelier qui a occupé assez bien de personnes. Le hasard fait que mon grand-père, qui était verrier, a fait une partie de son apprentissage et je sais qu'il a terminé contremaître avant la Deuxième Guerre mondiale, bien avant la Deuxième Guerre mondiale, à l'atelier Crix, avant d'ouvrir son propre commerce.
Numéro 6, la pierre de Lourdes.
Je m'appelle Charlotte, c'est moi qui nettoie la grotte, qui arrange des fleurs à la grotte. Avant, je connaissais la grotte. Je venais seulement prier avec mes enfants. Mais quand j'avais perdu ma mère, je suis venue à l'église, j'étais à genoux, mon pantalon était sale. J'ai demandé au magasin qui nettoie l'église, ils ont dit « il n'y a personne ». Alors j'ai acheté du matériel, j'ai commencé à nettoyer l'église tous les jours, ça me faisait beaucoup de bien. Quand j'ai fini de nettoyer, je rentrais à la grotte pour prier. Un jour, le soir, c'était tard, j'étais en train de prier à la grotte. J'ai vu une dame habillée en blanc, une très très belle dame. Il m'a dit, mais la grotte ici, c'est toi qui dois nettoyer. C'est toi qui dois ranger des fleurs, c'est toi qui dois nettoyer. Et moi, j'étais en train de prier, ma tête était comme ça. Je dis, quand je vais finir, je vais répondre à la dame. Et puis, quand elle a arrêté de parler, je regardais, il n'y avait personne. Et depuis là, je nettoie la grotte, j'arrange des fleurs. Et ça me fait beaucoup de bien. Je vais souvent au marché matinal, au marché du vendredi, j'achète des fleurs. Des fois, le mercredi aussi, on vend des fleurs, des produits pour nettoyer, j'achète moi-même. Et des fois, des gens qui nettoient la grotte, des jardiniers, disent, mais pourquoi t'achètes? Elles demandent qu'on te donne l'argent. J'ai dit non, je ne demande rien. Qu'est-ce que maman Marie avait fait pour nous? Elle n'a rien demandé. Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait pour nous? Elle n'a rien demandé. Moi, j'achète ça par... Je remercie Dieu. Le travail qu'il m'a donné, j'achète ça pour eux. C'est pas, j'ai besoin de rien. Oh, dans le futur, moi, je voudrais bien qu'on arrange la grotte, même derrière, qu'on arrange ça bien. Comme ça, des enfants de maintenant, des petits-enfants, tout le monde qui vient prier à la grotte, parce que c'est très, très important. C'est très important. Là, il y a les chemins de croix, que des gens viennent faire les chemins de croix. Et regarde Jésus, les statues, qu'on arrange, même derrière, qu'on arrange. C'est dommage que moi, je n'ai pas d'argent. Si j'avais l'argent, j'arrangerais moi-même avec mes propres moyens. Mais je n'ai pas d'argent, tu vois. Mais qu'on arrange derrière, là-bas, il y a des... Quand je nettoie, on ne sait pas mettre bien de l'eau, des chemins de croix, qu'on arrange vraiment bien. Devant, on a déjà arrangé. Je dis merci, je suis très, très contente. Mais... Derrière, en haut, qu'on arrange. Comme ça, il y a des enfants qui viendront prier. Nos enfants, nos petits-enfants d'arrière, arrière-petits-enfants, que tout le monde vient prier la grotte, qui viennent prier là, qui viennent mettre des fleurs, qui viennent là faire des chemins de croix et voir la mère de Dieu et voir comment Dieu l'a souffert pour nous. C'est très, très important qu'on n'abandonne jamais la grotte. Le jour où je ne serai pas sur terre, que maman Maria me permet là-bas au ciel, quand il veut se déplacer, que je les jette des pépites, des fleurs par terre. Ça, c'est mon vœu le plus cher. Tu vois, que maman Maria, quand il veut se déplacer, moi, je prends des roses, que je les jette par terre, qui marche, qui doit marcher, c'est les roses là que moi, je dois jeter. J'avance comme ça, hein. J'avance, je jette des pépites, des roses. C'est ça, mon vœu. Maman Maria, merci, maman. Ngouyaya yo toko senge. Oye pate tozali bana bayo zala na biso seko. Mama Maria, merci mama. Nguya ya yo toko senge. Mama e oye bate tozali bana bayo zala na biso seko. Soki monguna elibino. Bana banga ibo banga te. Bo bengenga noki noki na kosalisa bino banso. Mama, mama Maria, merci mama. Nguya ya yo toko senge. Mama e oye pate tozali bana bayo zala na biso seko. Kozanga chapele nanga ite, ezali mbunda na pesi bino, yakobete bisika biso, na pasito na esengo. Mama, mama Maria, merci mama, nguya ya yo toko senge.
Numéro 11, la statue du Sacré-Cœur.
Pour moi, ici, ce jardin, c'est un lieu sain. Moi, je suis tranquille, pas de stress. Et quand mon travail est bien fait, tout le monde est content. Moi, je suis content aussi.
Moi, je m'appelle André, très connu ici à la grotte des Jets de Notre-Dame de Lourdes. Et je suis le gardien des jardins, le jardinier, j'aide de tous les côtés. Je suis là tous les jours, sauf les dimanches. Mais tous les jours, c'est ouvert, de 7h jusqu'à 18h au soir. Déjà, le matin, quand j'arrive, je fais un petit tour dans le parc pour voir ce qu'on pourrait déjà envisager de commencer le travail. Parce que, bon, en été, c'est tout à fait un autre travail qu'en hiver. En hiver, il faut déblayer, nettoyer pour préparer l'automne. Et comme ça, on sait attaquer pendant l'été comme il faut, quoi. Et bon, tous les jours, je fais mon petit tour le matin avant de commencer, bien dans le calme, bien surveiller ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à ramasser, ce qu'il y a... le travail qu'il y a à faire, quoi. Pas si longtemps, j'ai encore vu un couple de rouge-gorge. Il y a deux couples de perruches ici, qui ont fait leur nid dans un des troncs des herbes. Plein de pigeons, et puis à une certaine heure, il y a les corbeaux qui s'amènent. Et ça fait un peu plus de bruit. Oh, il y a plein d'oiseaux qui passent et que j'observe un peu. Je dis, j'espère qu'ils restent, mais bon, ils viennent et ils partent. S'il y aurait un peu plus des oiseaux aussi, ce serait encore plus magnifique, féerique. Quoi. Depuis le début que je suis arrivé ici, c'était vert. Et moi, j'avais dit, moi, il me faut un peu de couleur dans le jardin. Ça donne un peu plus de choix aussi. Et comme ça, on a commencé à mettre des petites plantes, des roses, qui donnent un peu de couleur, des jonquilles qui sont en train de sortir maintenant. Et c'est ça que moi je voudrais bien donner, parce qu'il y a trop de verdure, donner une petite tache de couleur dans le parc. Allez, là à ce moment-là, moi, j'ai la joie de venir travailler comme il faut, quoi.
Laisse-moi te regarder, mon enfant, qui gît ici devant moi, succombé par le menuisier, toi le roi du monde regardant la création. Verse le vin, romps le pain, chante les louanges. Je porterai ma croix. Je suis libre à présent. Pendant que l'eau se rompt de mon fœtus fossilisé, ma matrice à nouveau veut porter, alors qu'il n'y a plus de sang ni de colombe. Viens dans mes bras, mon fils, si faible, si blême, si troué. Je veux guérir ce qui est cassé, boucher les trous où se trouvaient les clous, remettre toutes les pièces en place. Pourquoi mon être ne peut-il pas te mouvoir, ma voix te réveiller, mon toucher te chauffer, mon haleine t'allumer? Viens dans mes bras, mon fils, viens dans mes bras. Je me souviens de toi, mon chéri, le temple et la montagne. Ils se sont réfugiés dans le sourire et les préjugés, mais toi, tu n'as jamais oublié ta mère. Il y avait toujours une place pour moi. J'étais fière alors de ce que tu disais et faisais. Mais à quoi bon? Comment puis-je exaucer ton vœu? Comment le raconter au monde? Viens dans mes bras, mon fils. Si faible, si blême, si troué. Je veux guérir ce qui est cassé, boucher les trous où se trouvaient les clous, remettre toutes les pièces en place. Pourquoi mon être ne peut-il pas te mouvoir, ma voix te réveiller, mon toucher te chauffer, mon haleine t'allumer? Viens dans mes bras, mon fils, viens dans mes bras. Regarde les étoiles, mon petit soleil. Elles semblent heureuses, semant leur amour tout comme toi. Sont-elles porteuses de vie? Sentent-elles le vide? Je ne peux que pleurer, envelopper ce qui reste, caresser tes premiers cheveux blancs comme ce premier moment. Tu ne peux pas casser, mon chou. Tu n'es plus que de la chair, faible, flasque et humiliée, poussière encore tiède. Mais plus de mouches. Elles sont où personne n'a été avant. Non, je ne regrette rien, mon fils. Tu devais être celui que tu as été. Viens dans mes bras, mon fils. Viens dans mes bras, si faible, si blême, si troué. Je veux guérir ce qui est cassé, boucher les trous où se trouvaient les clous, remettre toutes les pièces en place. Pourquoi mon être ne peut-il pas te mouvoir, ma voix te réveiller, mon toucher te chauffer, mon haleine t'allumer? Viens dans mes bras, mon fils, viens dans mes bras. Laisse-moi te fermer les yeux, mon trésor. Ils sont devenus vitreux, pleins de griefs, de souffrances et de haine. Tu sembles paisible à présent, libre d'angoisse et de maux. Les rides et les cicatrices, tant aussi pénibles, semblent disparues. Tes blessures me regardent fixement. Elles ne saignent plus. Laisse-moi nettoyer ta peau, mon chou. peindre tes cheveux, enlever ces épines de tes cheveux pleins de caillots. Je veux guérir ce qui est cassé, boucher les trous où se trouvaient les clous, remettre toutes les pièces en place. Pourquoi mon être ne peut-il te mouvoir, ma voix te réveiller, mon toucher te chauffer, mon haleine t'allumer? Viens dans mes bras, mon fils, viens dans mes bras. Laisse-moi laver tes rêves, mon rayon de soleil, enlever les traces du martèlement. Doucement, mon enfant, ils sont partis. Je te fredonnerai une berceuse, mon petit lion, d'il y avait une fois et encore longtemps et heureux. Le calme règne ici, ma fleur. C'est fini, à présent. Il n'y a plus que moi et mon espoir, mon ange.
La base, ce sont des histoires et une cartographie de Bruxelles à écouter sur bna-bbot.be.